Bienvenue sur Bagropoint dans un épisode de Tosti Dramatique. Un épisode qui fera frémir... Non, je déconne. Bonsoir, bienvenue sur Tosti. Pourquoi je dis bonsoir en plus alors que ça se trouve les gens ils vont l'écouter le matin et tout. Bref, bonjour, bienvenue sur Tosti. C'est le numéro 8, et oui, un chiffre rond comme on l'écrit. Oh, bref, donc nous sommes ce soir mercredi, non, on est mardi.
On est mardi ce soir.
On est mardi ce soir, sauf que vous l'écouterez probablement mercredi si Sylvain arrive à le mixer rapidement. Bienvenue sur Tosti, un Tosti qui reprend sa forme habituelle, c'est-à-dire avec votre serviteur et sa voix sensuelle, digne de Elvis Presley. Bref, à la présentation. Et attention, cette fois, on innove dans la voix, car après vous avoir mis Hatzal et sa voix, comment dire, assez rentre dans l'art, voici maintenant Hatzal avec sa voix rentre dans l'art, mais cassée. Bonsoir, ouais, Hatzal.
Bonsoir.
Tu peux dire une phrase, genre les chaussettes de l'Arche du Sèche sont-elles sèches?
Non, on va éviter.
D'accord. Bon, alors, on va faire comme d'habitude, on va commencer par les titres de l'actualité de la semaine passée, on reviendra ensuite une analyse, on reviendra ensuite pas vraiment une analyse, mais Hatzal était au Toulouse Game Show le week-end dernier, c'est là qu'il s'est cassé la voix, il va vous raconter bien des choses jolies, et on terminera comme d'habitude avec les tournois à venir. On commence tout de suite l'actu avec une actualité qui m'a fait mourir de rire personnellement. Mortal Kombat 9 qui est passé en Games on Demand. Alors pour ceux qui ne se connaissent pas, le Games on Demand c'est quand on peut télécharger des jeux complets officiels qui sont normalement en disque sur Xbox. On peut les télécharger sur le Xbox Live. Alors là où c'est toujours rigolo, c'est que c'est souvent le même prix que le jeu en disque. 9 au moment de sa sortie. Autrement dit, ça vous coûtera $60 d'acheter Mortal Kombat 9 en Games on Demand. Alors que le jeu maintenant doit valoir quoi, 30€, même pas
enfin... Non, un petit peu plus. Un petit peu plus. Ah, je crois qu'il me semble qu'il vaut une quarantaine d'euros.
D'accord.
Enfin, en anglais, si tu l'achètes en import anglais, il te revient à peu près entre 30 et 40€. Ça dépend où tu l'achètes, voire peut-être un peu moins. Et là, en fait, le côté marrant de la chose, c'est que on a eu la fameuse fuite dans le listing d'Amazon FR dans la semaine, concernant une édition jeu de l'année. Et ça fait un peu mal de se dire, je vous le vends à 60€ alors que je te filerai une édition à moitié prix dans 3 ou 4 mois, quoi.
Ouais, c'est ça. Bah oui, parce qu'il risque normalement, Amazon a listé une édition jeu de l'année de Mortal Kombat qui comprendra très certainement tous les DLC sortis jusque-là. Donc voilà. Et. Dernière annonce Mortal Kombat de la semaine. Attention à Hatzal, après les Fatality, il y a Mortal Kombat
Vitality.
Yeah. Sur PS Vita, yeah. Bref, je suppose que tout le monde s'en fout parce que la PS Vita, ça a l'air chiant comme la mort. Mais voilà, Mortal Kombat tournera sur PS Vita. Voilà. On s'en doutait parce qu'il y avait eu des tweets fantômes effacés il y a des mois de ça. Le 3,
ça fait depuis le mois de juin qu'on s'en doute. Il y avait des gens qui avaient déjà confirmé dès le mois de juin. On a vu un fameux tweet d'Hector Sanchez qui avait disparu. Mais plusieurs sites, à plusieurs moments, ont confirmé, ont fait voir. On a eu un truc, on le sait, c'est sur cette plateforme. Et à chaque fois, NRS était là, non, nous ne travaillons sur rien, c'est faux. Ouais, bah comme quoi. Hein.
Bah, ce qui est faux aussi, selon Ed Boon, c'est qu'il y aurait une rumeur d'un insider qui se trouve dans le studio, comme quoi NetherRealm Studio tenterait de sécuriser les droits, attention, tenez-vous bien, de Killer Instinct. Alors ça, je crois que ça en fait palpiter plus d'un, mais moi personnellement je ne connais pas et n'ai pas un amour particulier pour Killer Instinct, donc je m'en fous, donc tu peux me dire pourquoi c'est une grande nouvelle ?
Ah, c'est une grande nouvelle, c'est une comment dire, c'est une très grosse série, enfin du moins à l'époque, elle a pas eu beaucoup de numéros, mais ça a vraiment marqué les joueurs, parce que c'était un mélange, si tu veux, entre tu mélangeais Street Fighter et Mortal Kombat et tu avais Killer Instinct. Et la version arcade était sacrément impressionnante pour l'époque. Tu avais des mouvements de caméra en fonction d'où tu te places. Si tu veux, au fur et à mesure où tu évolues sur la zone, et notamment à la fin de round, il y a des fois la caméra se bougeait. Et t'avais certains effets 3D qui étaient sans vraiment l'être, qui étaient assez impressionnants. Donc déjà t'avais ça, le cast avait un charisme assez impressionnant. Et surtout, les musiques étaient incroyables. Je me souviens quand t'achetais ta cartouche sur Super Nintendo, c'est l'exemple, tout le monde a eu le CD de la bande-son avec.
Bah pas moi, j'avais pas de Super Nintendo.
C'était ça, plus le fait que t'avais la cartouche était noire. Alors ça, pour se la péter quand t'étais gamin, c'était le truc quoi. Ouais, j'ai le seul jeu qui a une cartouche noire.
Je sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup de noirs dans le monde, donc bon, pardon. Ah, bref.
voilà, donc sinon, non, ben oui, c'est une bonne nouvelle parce que c'est une série qui a finalement eu que deux épisodes. Et tout le monde attend un numéro 3 depuis des plombes, ça fait des années qu'on en parle, et depuis le passage de RER chez Microsoft, c'est une rumeur constante. On sait que le projet a été pensé à un moment, vous en avez parlé la dernière fois, à dire que finalement toute l'équipe de base s'est barrée. Donc la grande question était de se demander est-ce que RER est encore capable de faire un jeu de baston. Et histoire d'éviter le drame que fut Perfect Dark, c'était lequel déjà
c'est pas Perfect Dark Zero.
Qui était un carnage. Et en plus d'ailleurs en parlant de Perfect Dark, il paraît qu'actuellement la dernière rumeur du moment c'est que Microsoft tablerait sur un nouveau Perfect Dark pour lancer la prochaine Xbox.
Oui, bon, ça sort du sujet.
Voilà, ça sort du sujet, mais bon, c'est pour dire en fait que la position de Rare est assez particulière. Et c'est vrai que bon, si NetherRealm Studios venait par exemple à travailler avec eux ou du moins à développer le jeu sous licence, Ça serait sympa, ça serait vraiment sympa.
Ouais, ça pourrait être bien. Après, c'est pas foncièrement impossible en termes de droits, parce qu'il faut demander des droits aussi bien Nintendo qu'à Microsoft, mais en un sens, ça pourrait être un truc bien sympa pour Nintendo d'avoir un jeu de baston au lancement de la Wii U. Et entre autres, un retour de Killer Instinct sur Wii U, ça serait quand même un truc loin d'être con, quoi. Donc,
après, c'est vrai qu'au niveau de la question de droits, je sais pas à qui s'attribue le truc, si c'était Microsoft qui allait récupérer, parce qu'il fut un temps. Et c'est pour ça que je pense que ça pourrait peut-être retourner sur la console de Microsoft. À savoir, est-ce qu'ils feront une exclusivité ou pas ? Ça aussi, c'est la grande question. C'est que il fut un temps, ils avaient pensé adapter le premier sur le Xbox Live Arcade. Après le succès des deux premiers Banjo-Kazooie, ils s'étaient fait, c'est pourquoi pas.
Ouais.
Donc c'est le problème. Faut bien se mettre ça en tête, c'est-à-dire que Microsoft, ça fait 2 ans leur plan de, ils l'ont fait à 2 issues différentes. Leur plan de bataille, c'est Kinect. Et il est évident que, on en parlait la dernière fois, tu vas pas proposer un jeu où il y a qu'un public niche qui se rappelle vraiment de ça. Tu vas pas leur proposer de se lancer dedans et vraiment de foutre un gros budget, alors que ils peuvent faire une deuxième version de Kinect Sports et se faire les couilles en or et le vendre par palette.
Ouais, ça, on avait parlé avec Gabs qui nous racontait les jeux de fitness avec des fruits. Enfin bref.
Et il y a tous ces trucs-là. C'est-à-dire que c'est vrai que le marché du casual gaming et notamment de Kinect, sachant qu'il paraît qu'il y a une deuxième version de Kinect qui sera en route et qui arriverait à détecter tes mouvements de lèvres, il est bien évident que, par rapport à des propos qui avaient, je ne sais plus quel mec de Rare qui avait dit ça à Game Industry, actuellement, Rare bosse énormément sur tout ce qui est innovation. Et notamment par rapport au système de Microsoft. Donc, si tu viens sur Kinect, il est évident que les mecs vont plus être enclins à produire quelque chose de nouveau pour Kinect, quitte même pour le lancement de la nouvelle console, peut-être avec compatibilité du nouveau Kinect, j'en sais rien, plutôt que de se lancer sur Killer Instinct. Donc, finalement, sous-traiter avec NetherRealm Studios, qui sont pas forcément des manches, ça pourrait être un bon compromis.
Ouais, puis comme je disais, même si c'est pas une exclue, enfin comme les deux ont les droits et Microsoft et Nintendo ont des droits, les deux vont lancer une console dans les 2 ans qui viennent. C'est loin d'être idiot. Hein.
C'est loin d'être idiot, ça serait bien. Et dernier point, c'est vrai que pareil, Ed Boon dit non, une mage de MK9, et c'est vrai que une mage qui réglerait pas mal les problèmes qui ne peuvent pas être réglés par patch, ça serait génial.
Voilà, donc on attend ça aussi. Bref, on a fait beaucoup de temps là, dis donc, sur NetherRealm et Killer Instinct.
On
fait déjà 12 minutes qu'on cause.
On a dit à tous les numéros, tu sais, c'est toasty, un respect pour les créateurs, quoi.
Ouais, respect pour les créateurs. On a dit ça.
À chaque fois, rappelle-toi, c'est notre drama de toasty. On a toujours une partie Mortal Kombat qui est plus grosse que les autres. C'est comme ça.
Exactement. Bref. Alors, on va parler maintenant de crossover. Alors, le premier à avoir ouvert le bal, c'est Katsuhiro Arada, dont on parlera un petit peu plus tard dans ce toasty, qui a dévoilé des premiers concept art de Tekken Cross Street Fighter. Et oh mon dieu, c'est vachement joli quand même. Voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Et pour Street Fighter Cross Tekken, donc la partie Capcom, pour ceux qui ne suivent pas trop, ils ont dévoilé sur un devlog que je n'ai pas eu le temps de lire, donc je vais te laisser parler, les Unslaked Gems.
Oui, donc c'est un nouveau système de gems qui, en gros, après activation, vous permet de gagner 50% de plus de barres de meter. Alors, il y a différents cas de... d'activation. Bon, je vais vous donner quelques exemples, mais par exemple, on a bien rigolé, il y en a un qui vous permettrait de l'activer après avoir placé un reversal.
Reversal, j'aime dans le cul. Ouais.
Donc t'imagines, ça va être, c'est une invitation, tu sais, à balancer un Dragon Punch au pif à la relevée. Ouais. Histoire de te dire que si tu le passes, t'as 15 secondes d'activation.
15 secondes d'activation et en plus tu doubles le gain de barre de ton Dragon Punch à la relevée, mec. Qu'est-ce qu'il y a?
Voilà, et donc il y a d'autres trucs. Alors, au niveau des autres exemples, on avait quoi? Toucher avec trois coups spéciaux, toucher avec un launcher. Un qui peut être par contre très très intéressant, c'est si ton partenaire, donc le premier personnage, vient placer le launcher.
Ah, je crois qu'il a éternué.
Non, j'ai coupé le micro.
Ah, bah, ça s'est entendu. Allô, Atsal ? Oh mon Dieu, nous avons.
C'est bon, je suis là.
Ok. Les conditions dures directes.
Voilà. Et donc, ça serait intéressant de se dire, hop, tu places ton truc et tu cherches ta barre avec un juggle.
C'est marrant. Le pile au moment où tu parlais de juggle, ça a déconnecté. T'as mimé un juggle devant ton ordinateur ou... Non, bon, bref. Alors, on va continuer avec, attention, tu es toujours là, Atsal. Oui, je t'entends, c'est cool. Aquapazza en arcade. Aquapazza est mis à jour en arcade. C'est la version 1.05 qui sort le 1er décembre. Bon, rien de plus à dire. Ça rajoute quelque chose de particulier?
Ça rajoute un nouveau personnage. Ça rajoute une nouvelle assist. Il devrait y avoir des nouvelles musiques, des nouveaux niveaux. Et notamment un petit rééquilibrage.
D'accord, ok. Rien de plus, quoi.
Donc, c'est pas mal. J'ai vu que les fans de la série avaient leur enthousiasme. Enfin, moi, je sais qu'Aquapazza, j'aime bien regarder comme chose. C'est sympa. Enfin, DJ Examu, donc c'est forcément cool. Mais après, je connais très mal les persos des licences Aqua Plus. Je pense qu'il faudrait demander à d'autres personnes.
Ouais.
Notamment, on a quelqu'un... On a quelqu'un dans les commentaires qui a l'air d'y connaître pas mal. Je crois que c'est Bolepitz qui a l'air de très très bien connaître tout cet univers-là. Mais ça a l'air sympa. C'est vrai que c'est peut-être une des raisons pour tout le monde se disait mais pourquoi il y a toujours pas eu une petite annonce pour se dire est-ce que Examu travaille sur la version console. Ou peut-être qu'ils se sont dit tu sais quoi, on sait forcément que il y a un ou deux persos qui sont méchamment pétés. Je sais plus exactement la. Attends, c'était quoi? C'était Kotomi ou un truc comme ça?
Je sais plus. Ouais.
T'as la petite écolière qui a trusté comme pas permis le top 4 du SBO. Mm. Donc c'est peut-être ça, histoire de se dire, on rééquilibre un petit peu et ensuite on va faire OK, vous avez votre version console.
D'accord, ouais, bon, bah écoute, on verra, hein. Ça pourrait être intéressant. Autre jeu un petit peu secret qui sort en arcade, Demon Bride Additional Gain est déjà sorti. Je ne vois même pas ce que c'est, donc je ne me souviens pas.
C'était une sorte de Guilty Gear like, pareil, d'Examu, c'est un. À l'époque du développement, mais je crois que c'est en.
Ah
c'est en 2008, si tu veux. Examu avait une énorme. Je crois que c'est 2008, oui, 2008 ou 2016, je crois que c'est 2008. Ils avaient une énorme année baston. Et à ce moment-là, ils avaient sorti, il me semble, ils avaient sorti Monster. Ils avaient développé la première version de Diamond Bride et je crois que c'était Arcanaire 2 Sugoi. Je veux pas dire de bêtises. Et donc, c'est la première version. Le jeu était sorti, le concept était sympa, mais il me semble que c'était pas génial. Beaucoup de gens avaient essayé et le jeu est vraiment disparu.
D'accord.
Là, ils sont faits, tu sais quoi, on va le ressortir avec Nessica Live, forcément, ça aide.
Ah bah oui, évidemment.
Ouais. Ils ont fait un peu le principe, tu sais, comme dans Guilty Gear, à se dire on reprend deux persos existants, on leur fait un design un peu différent et une move list radicalement opposée.
D'accord, ok. Et c'est tout. Donc c'est ça. Comme gain.
Pardon.
Il y a rien d'autre d'ajouter hormis ces deux persos là.
Et il me semble qu'il y a un petit rééquilibrage, mais ça je suis pas sûr.
D'accord, ok. Bon bah voilà, on reste dans l'arcade, le Japon et les dérivés de licence ou consorts avec Persona 4 qui va avoir droit à ses lock tests bientôt. Ça se déroulera quand?
Ça se déroule là le week-end qui arrive, le 3 et le 4. Plus sur ça, je crois, à Tokyo, dont la salle est à Akihabara. Je pense que c'est celle-là. Voilà, donc ça va être l'occasion de voir surtout les deux derniers persos confirmés en vidéo. Enfin même, les quatre derniers persos qui ont été confirmés en vidéo, les Japon.
Bon, ça va être sympa. Apparemment, il y a de bons retours pour le jeu. Il y a eu, on vous le traduira, on vous en parlera probablement plus dans le prochain Toastim. Ils ont dévoilé le système de comeback du jeu. Donc, on vous en parlera dans le prochain Toasty bientôt.
Mais c'est vrai quoi, ça a l'air pas mal. Il y a, c'est vrai qu'en plus des fans de Arc 6, s'ils arrivent à récupérer tous les fans de Persona, ça risque de leur faire une grosse fanbase. Hein.
Non, puis en plus, avec Atlus aux USA qui édite KOF 13, qui est en train de se prendre des galons, de prendre des galons dans le milieu de la baston pour ensuite sortir Persona et arriver les deux pieds dans le plat, ça pourrait avoir un bon impact Persona dans le futur. Alors, restons avec les jeux un peu plus étranges. On va parler de Skullgirls, qui a eu pas mal d'actu au final cette semaine. Alors, la dernière actu qui est parue, c'est qu'il est repoussé au mois de février, donc normalement début février 2012. Excusez-moi, je suis fatigué. Pour des raisons essentiellement d'approbation de Sony et Microsoft qui prennent trois plombes. Donc voilà, bah, j'espère qu'on aura le temps, que le jeu sera sorti pour la World Game Cup.
Quand même. Ça serait bien, ouais.
Ce serait bien. Ils ont annoncé un nouveau personnage. Alors, surprise, en fait, le cast de Skullgirls, pour ceux qui n'ont pas suivi le jeu depuis le début, était déjà dévoilé en fait depuis un petit moment. C'est-à-dire que Skullgirls est un jeu qui est issu d'un projet d'un ancien étudiant en art qui est devenu animateur, qui a bossé, qui avait un blog dessus, etc. En fait, on connaissait déjà les 8 personnages qui devaient être dans le jeu. Et il y a tout un tas d'autres personnages qui ont des concept art ou des trucs comme ça qui pourraient aussi être dans le jeu. Voilà. Et en fait, le truc qui s'est passé, c'est que de base, les 8 personnages qu'on avait, donc il y a ceux qui ont été annoncés, donc c'est-à-dire Philia, Cerebella, Peacock, Parasoul, Painwheel et Miss Fortune. Et dans les deux derniers, ça devait être Squiggly, qui est une espèce de femme avec un ver de terre coincé dans la tête, un peu à la Demon's Bride. Demon's Bride, qu'est-ce que je dis, Corpse Bride, donc de Burton. Et le dernier, ça devait être Umbrella, qui est le petit frère ou petite sœur, je sais plus, de Parasoul, donc un personnage avec un parapluie aussi. Et bah surprise, aucun de ces deux derniers personnages ne sera dans le jeu. En fait, ils n'ont pas donné vraiment de raison. Pour Squiggly, par contre, c'est qu'en termes de gameplay, avant de pouvoir faire le perso, ils doivent faire une grosse mise à jour de code et de technologie dans le jeu. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont prévu avec le perso, mais ça a l'air assez barré. Ouais. Et à la place, ils ont pris un autre personnage qui était réclamé par les fans et qu'on voyait de temps à autre en fan art sur leur site. Ils ont mis Valentine, ou Valentine, comme vous voulez.
Valentine.
Ah, j'avais travers de l'air. Comment on peut faire ça? Alors, pardon. Et qui est une... Comment on dit une nurse déjà en français?
Une infirmière.
Qui est une infirmière ninja, merci Atsal. Une infirmière ninja qui se bat avec des cadavres et des scies de découpe des os ainsi que des seringues. Donc,
Si t'as remarqué sur son artwork, mais le truc qui m'a bien fait délirer par rapport à l'idée des cadavres, c'est qu'elle a les espèces de sacs noirs de morgue. Derrière, il y a un cadavre dans un sac de. Je sais pas si t'as fait gaffe.
Oui, j'ai vu ça, ouais.
Et je suis sûr qu'on va bien se marrer avec le concept, on va vraiment rigoler.
Normalement, elle devrait carrément utiliser des cadavres pour se battre, donc ça pourrait être amusant. Quoi.
C'est d'ailleurs pour ça que j'espère qu'on aura Vénus en dernier personnage.
Ah, moi je pense pas. Alors, Vénus, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est un personnage en fait qui utilise ses côtes, si je me souviens bien.
Ah, les tentacules qui sortent des côtes, quoi.
Des trucs absolument affreux. Non, le dernier personnage, en fait, il y a de très fortes chances pour que ce soit Marie, qui est la Skullgirl dans le jeu, en fait, donc le boss final. Et Marie, en fait, si je me souviens bien, c'est une... c'est une jeune fille qui est une maid avec des ailes de squelette et qui se bat avec un aspirateur.
Ah oui, c'est elle.
Je crois que c'est elle. Donc si ça vous paraît
complètement débile, c'est normal. Je pensais à l'autre qui avait des lames à la place des pieds.
Ah ouais, celle-là, non, on l'a pas encore eu trop d'infos. Donc il y a des chances que Marie en fait soit le boss, sachant qu'il y a un autre perso qui s'appelle Double, mais qui est un espèce de mélange de blob à la Venom dont on n'a jamais entendu vraiment parler, où il n'y a pas trop de concept art. Donc voilà.
Voilà. Et il nous faut l'homme saxophone aussi. Hein.
Ah, l'homme saxophone, il serait pas mal, j'avoue. Bref, donc voilà, c'était ce qu'on pouvait vous dire sur Skullgirl. Les dernières nouveautés, sachant qu'on va le voir au moment où vous écoutez ce podcast, je suis probablement dans les bureaux de distributeurs français de Skullgirls en train de tester le jeu avec d'autres personnes. Donc,
on peut terminer voilà. Sur un truc avec Squiggly, voilà, ils ont fait savoir que ce seront sûrement les premiers persos arrivés en DLC.
Oui, voilà, donc s'ils arrivent à faire les persos en DLC juste après, hein, c'est pas de deal, d'accord.
Non, mais ça serait bien, voilà. Ça serait bien.
Alors, on n'a toujours pas fini l'actu, oui, excusez-nous, c'est très long et on a tendance à un peu digresser ce soir. On va terminer rapidement. Alors, Dead or Alive 5 sera accessible, mais profond, c'est la promesse de... comment il s'appelle ?
Yusuke Hayashi.
Yusuke Hayashi, qui j'ai honte d'avoir oublié son nom parce qu'il avait un très beau collier de perles Ninja Gaiden quand je l'ai vu à la Gamescom. Et puis je t'ai jamais raconté ça, mais c'était vrai, je te raconterai plus tard. Bref, donc il nous fait la promesse que tous les développeurs de jeux de combat nous font actuellement. Les jeux de combat sont trop compliqués, les jeux de combat, blablabla. Mais en même temps, il faut une certaine profondeur si jamais vous voulez vous investir beaucoup. Donc voilà, DOA 5 sera accessible mais profond. Et s'ils arrivent à faire ce qu'ils veulent, ça mettra les jeux de baston à un niveau supérieur. J'attends de voir. Bref, autre chose, on vous parlait la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, d'un Smash Bros de chez Sony qui réunirait plusieurs personnages de la saga, enfin de la marque Sony ainsi que des personnages invités. Et ben on a une confirmation totale. C'était parti du site de Paul Gale, c'est ça,
Tal? C'est ça, ouais.
Et qui avait dit, en gros, bah, il y aura tel perso, ça se joue comme ça, la caméra n'est pas fixe, elle est comme dans Smash Bros. Et forcément, Internet ayant fait son œuvre, des gens ont commencé à fouiller le nom des employés du studio une fois qu'ils ont deviné qui était le studio. Studio qui a été formé pour travailler sur des jeux non dévoilés encore, exclusivement pour Sony. Et ils ont trouvé donc le compte Twitter d'un level designer qui travaille chez eux. Et le level designer, bah, il a carrément posté sur son compte Twitter des photos du clown de Saints Row, d'une peluche
non,
de
Parapher. Non, Ripper, c'est le clown de
Saints Row, de Twisted Metal. Twisted Metal, mais aussi ça parle de Kratos, ça parle de Uncharted.
Et surtout, non, il y a un truc intéressant, c'est que Paul Gale avait, au départ, avait donné quelques informations, puis il avait pris quelques photos. Mais il avait fait, voilà, ces photos-là, prenez-les comme vous voulez, ce sont des indices, donc je révèle quelque chose. Et dans une des photos, il était habillé en costard, façon James Bond, et il se tenait comme James Bond. Tout le monde s'est fait, c'est quoi ce bordel, James Bond? Et s'avérait, il me semble que Sony, du moins, travaille sur l'adaptation là, oui, du prochain James Bond, un truc comme ça, avec Daniel Craig, et on pourrait se retrouver avec un James Bond avec la gueule de Daniel Craig dans le jeu.
Voilà, donc ça pourrait être bien sympa. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il va y avoir Parapaz The Reaper, et s'ils le font en 2D, ça va être bien rigolo aussi.
Bref. Donc, ça, c'est vrai que le projet, là, sur le papier, ça peut vraiment, vraiment être marrant.
Carrément.
Donc, et je crois qu'ils vont donner un titre. Comment ça s'appelait ? Title Fight ou un truc comme ça ?
Un truc dans le genre, en fait. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une pub PlayStation 3 il y a peu de temps, dans laquelle il y avait deux soldats américains, garde 39-45, qui débarquaient dans un espèce de bar pub perdu dans la forêt. Et dedans, il y avait des personnages en fait de franchises Sony et d'autres franchises invitées. Et en fait, le mec a dit, c'est globalement ce qu'on est en train de faire, en gros, donc réunir tout un tas de personnages des franchises Sony ou que les joueurs Sony ont l'habitude de voir. Bah écoutez, quand on vous donnera plus d'infos, on vous en dira plus. On va terminer avec deux dernières news. Alors, Wonderful World 055 est disponible. C'est quoi Wonderful World?
C'est un poverty game. Enfin, c'est même plus un dodging game. C'est un petit jeu sympa. Un truc adorerait MDJC avec des petits garçons et des petites filles. Et c'est quand même sympa comme truc. Donc j'ai un peu de retard. Je devais le faire déjà il y a deux semaines, mais je peux le temps. Donc la version 055 est sortie il y a quoi? Il y a une dizaine de jours. Et elle ajoute un nouveau personnage qui s'appelle Friday. Donc je n'ai pas pu tester, je ne pourrais pas vous dire, mais vous pouvez trouver ça directement là. Si vous allez faire un tour sur Mizumi.net, vous pouvez le trouver et le tester.
Et on termine avec une dernière news. Et oui, une news Death Cargo, car il en faut une chaque semaine. C'est vrai que Tosti n'a pas la même saveur sans une news sur Death Cargo. La semaine dernière, on vous parlait des derniers personnages révélés, dont un avec des tuyaux et une moumoute pas possible. Cette semaine, ce sont...
C'est musique.
Oh là là, quelle générosité, ouais. Bref, c'est de la musique, on dirait du The Cure, mais sans le chanteur. Et fait avec un mauvais synthé et des boucles infinies. Donc si ça vous amuse, n'hésitez pas à aller sur Bagropoint, retrouver la news, vous aurez les musiques de Death Cargo.
Ah, et on n'a toujours aucune nouvelle de la démo qui était censée sortir. Et quand tu te dis qu'à la base, enfin je me souviens quand on avait trouvé le jeu au tout départ, le jeu était censé être en version boîte d'ici le mois de décembre, dites-vous que c'est pas pour tout de suite. Hein.
Ouais, faut qu'on les contacte pour essayer de les faire venir dans la World Game Cup pour faire une démonstration sur le streaming.
J'imagine déjà la gueule de Well et SNK quand ils vont les voir débarquer.
Ce serait trop bon. En plus, c'est des Italiens à la Cannes. C'est pas si loin de l'Italie. On
c'est
va
pas
voir
loin,
si on peut faire
c'est
ça.
Pas loin. Ça serait tellement marrant. Puis ce jeu, j'ai vrai. Enfin, après avoir testé la démo qui était assez particulière, j'ai vraiment vraiment envie de voir ce. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont comme idée avec tous leurs personnages pour ouais. voir ce que ça pourrait donner. Ça sera peut-être pas forcément. Enfin, ça sera sûrement pas le jeu du siècle. Hein. Mm. Mais je sais pas. C'est ça m'intrigue comme jeu.
Pareil, moi aussi. Bref, c'était la revue des titres de l'actu de la semaine dernière. Bah, putain, c'était quand même bien chargé, en fait, la semaine dernière.
C'était chargé, hein. C'était
chargé. Hein. On n'a pas chômé. Alors, on va parler maintenant du... Parce qu'en plus d'avoir fait toutes ces news la semaine dernière, tu t'es tapé le Toulouse Game Show, donc un salon censé être un salon de jeux vidéo à Toulouse, mais qu'en fait, c'est une espèce de mini Japan Expo qui ne veut pas appeler son nom.
C'est ça. C'est exactement
voilà.
ça.
Donc, perdu entre les cosplayers et les lolligottes, Hatsal s'est frayé un chemin à travers le salon pour atterrir sur le stand de Namco Bandai où il a rencontré Ayato. Ayato qu'on salue, donc community manager chez Namco Bandai, où tu as fini par aider Ayato qui était un peu débordé en aidant à organiser les tournois. On salue aussi Zaikel qui apparemment a aidé aussi à organiser ce tournoi. Et à la fin de la journée, une fois que tu avais déjà plus de voix, tu as été faire une interview, ce qui est vachement logique, Katsuhiro Arada et Michael Murray. Alors qu'on a déjà interviewé sur le site, je vous invite à voir cette interview qui était fort intéressante. Alors, c'était comment
Le salon lui-même ou rien que l'interview?
Non, le salon, on s'en fout, vas-y, l'interview quoi.
L'interview, ça a été un peu le bordel parce que, comme tu le dis, j'ai plus de voix. D'ailleurs, je ne sais pas s'il m'écoute, mais je tiens à remercier John qui est un des joueurs de, je crois que c'est son pseudo, un des joueurs de Tekken de Toulousain qui m'a quand même sauvé la vie avant la. Avant l'interview en me filant des pastilles pour la gorge. C'était très sympa de sa part.
Donc oui, il y a des gens qui se baladent avec des pastilles sur la gorge.
Non, ça a été, c'était ça. Par contre, c'était le truc qui m'a sauvé la vie. Mais le truc avec ma voix, c'était, on en a rigolé pendant l'interview. On était là, ça se trouve, je commence à avoir la voix de David Chris Lips. Tu sais
le traducteur
de Yoshinori Ono, là, qui a toujours une espèce de voix très, 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 très grave. Donc on a rigolé là-dessus, mais ma voix fait vraiment, c'est assez bizarre parce que même Arada-san à la fin, a demandé à Yato, du moins il lui a fait il était un peu inquiet pour ma voix, il se demandait si ça allait revenir à la normale.
Ouais, bon, il a pas l'habitude quoi. Bon alors, donc l'interview, ça a traité de quoi? T'as parlé de quoi essentiellement
L'interview, je me suis pas vraiment, enfin je comme on l'avait déjà fait avant à Japan Expo, on n'est pas en mode bullshit total, essayer de leur poser des questions complètement connes ou du moins des trucs qui on sait clairement qu'on n'aura pas de réponse ou tu sais le truc. Alors, vous pouvez nous dire que Konimitsu sera dans Tekken Tag Tournament 2, tu vois, un truc comme ça. Donc j'ai visé. Je me suis plus attardé sur toutes des questions d'évolution de la série en 3D et tout ce qui est plus ou moins des idées de game design, notamment quand on vient à penser à un crossover. Donc par exemple, je sais pas si je peux donner un
bon. Ouais, vas-y, on va lâcher un ou deux morceaux avant que vous ayez à lire l'interview dans le courant de la semaine.
Il va falloir que je réécoute tout ça vu que j'ai pris plusieurs prises son. J'espère que j'arriverai à me réécouter avec ma voix dégueulasse. Alors attends, qu'est-ce que ah ouais. Alors, on va faire une petite exclue du monde.
Vas-y.
J'ai demandé à Arada-san et notamment à Michael Murray aussi, comme il est game designer, je voulais son avis sur le sujet. Comment est-ce qu'ils imaginaient, du moins sur les mécaniques de gameplay, un crossover? Je prends l'exemple de Street Fighter Cross Tekken parce que bon bah c'est l'exemple du moment. En demandant voilà Ono-san dans sa version, en gros a pris Tekken Tag Tournament comme base et il a rajouté des mécaniques qui viennent de d'anciens jeux Capcom quoi. Notamment enfin il en est même quand même allé rechercher le système de gemmes de Marvel Super Heroes 1.
Ouais, ça.
Donc tu fais bon ok. Et j'étais là, ben, pour vous, qu'est-ce que vous imaginez la meilleure solution entre faire ce qu'a fait Ono-san, c'est-à-dire tu prends tes deux licences, tu essaies de prendre des mécaniques qui viennent des deux côtés, tu essaies de voir si tu arrives à les mettre les unes ensemble, et si ça va, ben, tu essaies d'avoir un équilibre entre les deux. Ou une autre variante qui serait d'essayer de trouver une base commune. C'est-à-dire que tu vas peut-être même faire quelque chose de radicalement différent et tout à fait nouveau, et à te dire voilà, j'ai beau avoir des persos qui viennent de là, je sais très bien que j'ai des parties de gameplay à garder, sauf que je vais pas m'emmerder à me dire que je vais garder toutes les mécaniques et que je vais volontairement passer dans quelque chose de différent, d'avoir une base qui est radicalement différente des deux, peut-être des deux licences, mais qui permettrait d'une certaine manière à mettre les personnages venant par exemple de 3D et 2D sur une même échelle, c'est-à-dire à se dire ok, je sais très bien que si je prends cette mécanique là je vais être emmerdé parce que je vais avoir un changement de dimension qui va faire chier.
Voilà, donc au lieu de transformer des persos 3D en 2D ou des persos 2D en 3D, on transforme tout au final.
Voilà, ça serait de se dire j'ai vraiment une base différente, mais cette base permettrait d'équilibrer tout le monde.
D'accord. Donc en gros, c'est sous-entendu ce sur quoi ils travaillent, quoi. En gros.
Ils m'ont fait oui, on est en train de réfléchir et tout ça, mais ce qu'on peut plus ou moins vous dire, c'est que ça se rapprochera de la seconde solution et qu'on est en train de penser à faire quelque chose de. Attendez-vous à quelque chose qu'on n'ait jamais encore fait.
Voilà, donc en gros, Tekken Cross Street Fighter ne devrait pas tout simplement être un Tekken avec Ryu dedans qui fait des boules et des pas de côté, quoi.
Si voilà, bien. Voilà. Et quand il m'a dit ça, c'est ce que j'attendais comme réponse. C'est vraiment, c'est définitivement ce que j'attendais comme réponse. Je voulais un. Comment dire, je trouve ça très bien ce que fait, tu vois, ce que fait Nusan. Je sais pas encore ce que va donner Street Fighter Cross Tekken, hein, je veux dire, on a encore le temps. Mais ce qu'a fait savoir à Nusan, c'était plus ou moins de le dire que ce qu'il a fait avec Street Fighter Cross Tekken, il a pu le faire parce que c'est un jour de dé. Effectivement,
c'est avec Street Fighter Cross Tekken, pardon.
Voilà, que bon, si tu passes sur de la 3D. Il va falloir repenser à d'autres choses. Et ce qui serait bien, c'est qui est peut-être un truc, enfin, qui pense à des trucs qu'on n'est pas, à lesquels on n'est pas idée, quoi. Ça serait assez énorme.
Bah, à la Japan Expo, on y en avait déjà parlé un petit peu, genre on lui avait dit, bah en fait c'est bien, on arrive à tourner les questions de façon à avoir des réponses. Ouais, on lui avait dit, par exemple, Ono, pour le problème des boules, pour les personnages qui n'en ont pas, les personnages Tekken qui n'ont pas de projectiles dans Street Cross Tekken, il fait un truc en dessous, il passe en dessous, quoi, tout simplement, un petit dash en dessous. Et nous on lui avait dit, mais comment vous régleriez, si vous deviez le régler, vous le régleriez comment? Et il fait, bah moi je profiterais que l'animation d'un jeu 3D soit beaucoup plus fluide, par exemple, pour réussir à faire en sorte que au lieu de garder tout simplement une boule, on puisse la faire glisser le long de ses bras, le long de ses mains ou autre, ou qu'on puisse rendre la force d'un impact, de l'arrêt d'un projectile, vraiment comme quand on arrête un ballon de foot dans les mains, quand on est gardien de foot, tu vois, c'est pff, t'arrêtes le truc vraiment. Et il n'avait pas encore réussi à rendre bien cette espèce de mécanique, parce que lui il voulait carrément que ça stun presque un petit peu.
Mais ça serait pas mal, ouais, l'idée de se dire qu'effectivement, si les mecs viennent à prendre un coup assez violent, des trucs comme ça, ça te projette vers l'arrière, les trucs comme ça. Exactement ce qui se fait dans Tekken, une fois quand tu prends certains coups, t'es projeté vers l'arrière, même quand tu bloques.
Oui, c'est vrai.
Donc, c'est vrai que, ouais, associé à ça, ça pourrait être intéressant. Et puis, enfin, j'attends vraiment de nouvelles mécaniques. Il y a sûrement des trucs qu'elle y pense, et c'est peut-être vraiment le terrain qu'ils attendaient pour expérimenter des trucs qu'ils peuvent pas faire sur une série régulière en 3D.
Est-ce que ça, vous en avez parlé aussi, apparemment, de ce que tu as parlé un petit peu, tu peux, selon eux, tu peux pas foncièrement trop bouleverser une série comme ça très facilement.
C'est exactement ça, et je pense qu'ils vont se donner des libertés qu'ils peuvent pas à cause des... C'est-à-dire que je lui ai demandé... En gros, ça va être la deuxième partie. Quand on parlait de Dead or Alive 5 juste avant, si vous voulez, dans l'article qu'a rapporté Nathan, il y a une partie qu'il n'a pas forcément citée, où Hayashi-san vient faire, vous savez quoi, les jeux de combat ont quasiment pas évolué en termes de gameplay depuis 20 ans. Et c'est par rapport à ça qu'il a fait, voilà, nous on va vous proposer quelque chose de radicalement différent. Et c'est vrai que si tu prends sur le papier actuellement, Dead or Alive 5 propose un truc qu'on n'a jamais encore vu.
Oui, c'est vrai. Sur le papier, je précise.
Sur le papier, on ne sait pas ce que ça va donner, mais d'un côté aussi, c'est, on va encore penser avec des pincettes, c'est un peu la même chose que ce qui s'est passé avec Soul Calibur 5. Ce qu'on a vu du jeu, je crois que c'est à peine 15%. Hein.
Oui, c'est vrai.
Donc, ça a tout le temps d'évoluer. Ça se trouve, les mecs ont encore plein de trucs dans leur mallette et ils ne nous les ont pas encore sortis. Hein.
Aussi, des chances.
Alors, le truc est que je lui ai demandé, alors déjà, la réaction, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis surtout, de quelle manière ou qu'est-ce que vous pensez vous pourriez faire évoluer dans une licence, notamment dans une licence 3D, en termes de gameplay? Est-ce qu'il reste encore des éléments qu'on peut venir à creuser pour apporter quelque chose de plus? Ça peut être une interaction avec les décors, ça peut être tout, n'importe quoi. Et c'est intéressant, la réponse qu'il a donnée, c'est intéressant notamment surtout le départ, à dire que c'est vrai quand t'as une série qui date, c'est-à-dire que Tekken, je crois facilement, je crois Tekken a 16 ans, il me semble.
C'est ça.
Il est difficile par rapport à la fanbase, parce que comme il disait, on fait des changements, mais il faut bien que tu prennes en compte que t'as toute ta partie qui est très bruyante, ce sont les hardcore gamers, ce sont les mecs qui jouent au tournoi. Et ces gens-là, généralement, sont pas si enclins à vouloir des énormes changements sur leur personnage. Souvent, t'as une petite nouveauté qui arrive, qui ajoute un plus, mais si genre, on va te dire que, ok, bah, tu sais quoi, je vous propose un épisode où on a tout changé, les movelists ont tout changé, vos personnages, ils peuvent faire ça maintenant et tout ça, les gens seraient un peu... C'est sur leur garde, ils feraient, je suis pas vraiment chaud à voir.
C'est un petit peu ce qui est arrivé à la saga Soul Calibur, qui d'un épisode à l'autre change et à chaque fois énormément de choses.
Soul Calibur 3 fut marquant à ce niveau-là, parce que
voilà, par exemple,
un personnage comme Mitsurugi qui, par exemple, avait tous ces changements de stance où il fallait appuyer vers l'avant, vers l'arrière après certains coups. Dans Soul Calibur 3, par exemple, il fallait maintenir les coups, maintenir le bouton appuyé. Et certains trucs ont changé. C'est vrai que ça vient perturber. Il y a des fois, tu fais Et donc ils ont ce truc-là, ils doivent vraiment rester sur un terrain inconnu, histoire de pas frustrer toute la fanbase, mais il faut forcément que tu arrives à apporter quelque chose de nouveau. Et il était là, effectivement, à chaque fois il faut prendre ça en compte, t'apportes quelques modifications. Et c'est vrai que si tu viens apprendre à te dire « ok, c'est un crossover, on en fera peut-être qu'une fois », pourquoi pas tenter les trucs qu'on peut pas faire à côté ? Parce que certes c'est Tekken, mais si on annonce direct la couleur en disant « ok les gars, on va vous prendre le système de jeu, ça sera radicalement différent de ce que vous avez connu », ah bah là, les mecs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent,
non ? Oui, carrément. Donc, c'est pas mal. Ça peut être cool.
C'est pas mal.
Il y avait un truc aussi dans l'interview, quand tu lui as demandé, par rapport au décor ou truc comme ça. Selon lui, la difficulté, en fait, c'est pas tant de faire des interactions avec le décor. Je crois que tu m'avais dit, c'est de réussir à... C'est ce qui se passe entre le moment où tu commences le match et le moment où tu arrives au décor.
Voilà, voilà. C'est assez intéressant, parce que actuellement, enfin... J'ai pris l'exemple de Dead or Alive 5 et de quelques rumeurs. Je sais pas si vous vous rappelez, le fameux truc qu'avait rapporté le Hip Hop Gamer il y a quelques mois par rapport à un hypothétique nouveau Samurai Spirit en 3D avec gestion des décors. Et j'étais parti dans cette idée. C'est vrai qu'actuellement, si je prends, hormis Dead or Alive qui était vraiment rentré dans cette optique-là, si tu prends n'importe quel jeu de combat 3D contemporain, enfin, c'est-à-dire très récent, il n'y a jamais vraiment cette dimension à se dire que tu avais des éléments du décor où il fallait passer par-dessus, ou les trucs qui pouvaient te gêner en te battant.
Ouais, c'est vrai.
Et alors, Dead or Alive proposait des trucs où, par exemple, tu pouvais te prendre des palmiers, tu pouvais te faire chuter dans des palmiers dans la gueule, prendre des noix de coco sur la tronche, tu pouvais faire passer un mec par-dessus un pont filaire et sauter au-dessus, passer au-dessus de troncs d'arbres, des trucs comme ça. C'est un truc qu'il y avait dedans. Mais il n'y avait pas forcément ce truc-là. Et l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on pourrait pas se dire et mettre vraiment à se dire que la topographie du niveau viendrait à radicalement changer ta manière de te battre. C'est-à-dire que, en gros, t'aurais le match-up entre tes deux personnages, mais le niveau viendrait influencer en plus le match-up. Un peu comme quand tu joues à StarCraft, tu sais, où il faut prendre la race en compte, plus la carte sur la carte que tu joues.
D'accord, ouais.
Et j'étais là, pourquoi pas se dire, par exemple, Virtua Fighter proposait des trucs comme ça, par exemple, quand t'es contre un mur, t'as moyen, si tu rentres une bonne commande, de pouvoir utiliser le mur, soit pour porter une attaque, soit pour pouvoir carrément passer dans le dos de l'adversaire.
Ouais.
Et l'idée serait, pourquoi pas te dire que je vais utiliser le mur, par exemple, pour sauter. C'est-à-dire que je vais prendre appui sur le mur et je vais me jeter sur l'adversaire. Ou je vais utiliser le mur pour pouvoir esquiver une attaque. Ou, je sais pas, il y aurait des éléments qui traîneraient sur le décor et les utiliser pour faire quelque chose. Pas forcément les jeter sur quelqu'un, mais de se dire que tu aurais peut-être moyen, je sais pas, moi, de passer derrière. Ou un truc comme ça.
Ouais.
Et la question, c'est, est-ce que vous pensez que le décor, par exemple, et l'utilisation du décor pourrait être un nouvel élément à creuser en termes de gameplay ? Ou en termes de profondeur de jeu, ou du moins peut-être apporter des interactions, parce que carrément même le décor puisse interagir avec toi. Genre, actuellement, le dernier truc qui a été montré en date, c'est dans un des niveaux, quand tu es dans la tour des... la Challenge Tower de Mortal Kombat 9, t'as certains niveaux où t'as carrément des projectiles qui arrivent du fond du décor, et faut les éviter en battant. Donc c'est tous ces trucs pris en compte, on était là, pourquoi pas. Alors,
Maintenant que tu introduis bien la question.
Aradasan, en fait, a une vision différente. C'est-à-dire, certes, le décor sera peut-être un élément important dans les années à venir, mais pour lui, actuellement, le truc sur lequel il faut se concentrer un peu plus, c'est ce qui l'intéresse le plus, c'est le moment qu'il y a, finalement, c'est les quelques secondes entre le début du combat et le temps où, finalement, c'est le combat vient à être à t'amener vers une partie du décor. C'est ce moment-là qui l'intéresse. C'est-à-dire ce qui va se passer à ce moment-là quand tu vas te taper dessus, en fonction des actions que tu peux faire, qui peut t'emmener jusqu'au décor. Et c'est là, en fait, actuellement, qu'il pense qu'il y a encore des améliorations qui peuvent être faites.
D'accord. Donc, alors que tout le monde regarde les murs, lui, il regarde ce qu'il y a entre les
lui,
murs.
Lui, il voit ça. Enfin, tout le monde ne voit pas forcément les murs actuellement. Enfin, si tu prends des deux relives, c'est une suite logique. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est une suite logique. Ils se sont toujours, ils ont toujours mis en avant le fait que le décor était important. Ouais. Il y a toujours eu des trucs. Dans tous les Dead or Alive, il y a toujours eu un truc qui faisait, enfin, ça a commencé avec les Danger Zones. Ensuite, on a eu des trucs où, en fonction dont tu te battais, tu pouvais prendre le jus en prenant un grillage électrique. Tu pouvais passer à partir d'un truc, tu pouvais dans une autre partie du niveau.
Donc, ouais, non. Mais voilà, donc, oula, mais je regarde le temps, ça fait déjà 40 minutes qu'on cause.
Ah bah ouais,
je suis désolé, je vais devoir t'interrompre. Donc voilà, bon bah écoutez, l'interview d'Assal sera en ligne, je pense, d'ici la fin de semaine, début de la prochaine.
Je vais essayer, en fonction de du travail que j'ai pour la fac, je vais essayer de retranscrire ça de ce week-end.
Voilà. Donc d'ici ce week-end, la semaine prochaine, donc interview de Katsuhiro Arada par Assal sur Bakropoint, bien sûr. Voilà.
Alors je n'ai pas pu avoir du Suzuki, malheureusement.
Mais on l'aura, un jour on l'aura.
On l'aura un jour. Et le pire, c'est que quand j'interviewais Mike Emery et Katsuhiro Arada, j'avais Yu Suzuki qui était juste à côté de moi dans la salle VIP. Il est en train de manger un gâteau Shenmue.
Ouais. Oh merde, la classe.
J'étais à côté, j'étais là. Ah putain. Ouais. Donc non, c'était bon. Non, à part ça, c'était quoi? Ah si, il y a peut-être une dernière chose. Ensuite, on passait sur les tournois VIP. Il y avait une table ronde à la fin du TGS. Enfin, du Toast Game Show, hein, soyons d'accord, avec Michel Ancel, Yu Suzuki et Katsuhiro Arada. Et notamment, il y a un truc qui a été marrant, c'est ils ont déliré sur les billards, mais ça, je pense qu'ils l'ont filmé, vous pourrez l'avoir en vidéo sur le net, ou comme ça. Et surtout, la question, c'était quels sont vos prochains projets. Et il y a eu un petit truc comme ça, bon, ça n'a rien d'officiel, hein, bien entendu, où... ça demande à Yu Suzuki, on s'attendait à ce qu'il vienne à parler. Moi, je m'attendais vraiment qu'il vienne à parler de Kinect et qu'il vienne nous faire, ok, vous savez quoi, vous vous rappelez de comment il s'appelait ce jeu?
Oui, son espèce de projet fantôme.
Psykai ou un truc comme ça.
Ouais,
On va le faire, je vais le faire avec Kinect. Et là, ça aurait été wow. Parce qu'il fut un temps, il y avait des rumeurs que ce truc-là soit porté sur Move. Hein.
Ouais.
Donc, on a, ouais. Et là, il fait. Et donc, ça délirait que le truc du billard, il était là. Ah ouais, un jeu de billard, ça me ferait bien délirer à faire. T'es là. Puis à la fin, il fait. Mais je ferais bien aussi, j'aimerais bien aussi faire un nouveau jeu de combat. Et on a fait ah. Et il fait ah, et pourquoi pas s'entretenir avec Arada-san à propos de ça. Et là tout le monde s'est fait oh putain, Tekken Cross Virtua Fighter. Wow.
Ouais, non, mais ça arrivera pas ça forcément. Arrivera,
par contre, ce qui serait intéressant, c'est que les deux viennent à bosser sur une autre licence.
Ouais, ça, ce serait intéressant.
Ça, par contre,
que ce soit bien clair pour les gens qui nous écoutent, Yu Suzuki, il a plus rien
à voir avec Sega.
Il a plus rien à voir avec Sega. Donc, c'est plus la peine de se dire Yu Suzuki, s'il parle de jeux de combat, il parlait pas de Virtua Fighter. Hein.
Ça pourrait être quelque chose de radicalement différent. Et justement, ça serait l'intérêt. Histoire de se dire si les mecs veulent innover, faire un nouveau truc, une nouvelle licence 3D, où les deux travaillent dessus.
Oui, ça pourrait être intéressant.
Ça pourrait être génial. Et alors, dernier point, je continue là-dessus avec Arada et ensuite on part.
Ok.
Je vous mets au courant, il y a un truc qui va arriver dans pas longtemps. Ça devrait normalement arriver dans les Famitsu du courant du mois de janvier, il me semble. Il va y avoir une espèce de clash interposé via Famitsu entre Tomonobu Itagaki, donc ancien Team Ninja, créateur de Dead or Alive, et Katsuhiro Arada, parce qu'il faut savoir que l'un comme l'autre peuvent pas se saquer. Et que Itagaki, du genre, a vraiment détesté Tekken.
Il avait fait une liste sur IGN où il disait c'est quoi vos jeux.
Non, c'était sur One Up.
C'était sur One Up. Il avait marqué Tekken 1, Tekken 2, Tekken 3, Tekken 4, Tekken 5.
C'est-à-dire, c'est Itagaki, il y a quelques temps, bah, c'était quoi, il y a 4-5 ans, je crois. Ouais. Il avait une rubrique pour lui tout seul sur One Up et tu pouvais lui poser n'importe quelle question.
Ouais, c'est ça. On a déjà parlé, je crois, dans Toasty un petit peu. Et en gros, il faisait des conseils de vie sexuelle. Et
de vie sexuelle, il te demandait. Il y avait des mecs qui demandaient est-ce que si je fais ça, est-ce que je peux aller en prison? Et les mecs, ils étaient là, ouais.
Donc et en gros, ils vont faire un clash. Donc en gros, ils vont s'entretenir l'un avec l'autre dans Famitsu. Mais bon, ça va rester amical.
Mais c'est violent. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un truc qui a été relaté tardivement. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière au SBO, il y a une photo qui a tourné. Où on voyait Itagaki et Arada ensemble sur la même photo au SBO. Ouais. Et ce qu'on savait pas après, c'est que les mecs se sont engueulés.
Ah bon?
Ils sont engueulés. Actuellement, là, le truc, c'est qu'ils se seraient vraiment engueulés. Arada aurait dit ça à sa famille, tout ça. J'ai lu dans un truc, et ils se seraient vraiment engueulés. Donc là, enfin, je veux dire, c'était courant. Je veux dire, Itagaki a toujours chié sur Tekken. On a toujours mis plein la gueule. Un jour, il faut que je vous retraduise. Il faut que je vous ressorte les trucs. Mais Itagaki. Attends, comment ça s'appelait ? C'est a toujours chié sur le principe des jeux bonus qu'il y avait dans Tekken.
Ah oui, il disait si jamais t'as le temps de faire des jeux bonus, c'est que tu ne mets pas assez de temps. Nous, quand on... En fait, il disait un truc genre, il y a des gens qui ont le temps de faire des jeux bonus comme le Tekken Ball ou le Tekken Bowling. Nous, quand on a du temps bonus, on affine le jeu.
On affine le jeu.
Votre jeu, c'est de la merde.
Je l'ai toujours dit. Quand vous avez du temps en plus. Il faut toujours trouver un truc. Si vous trouvez le temps pour faire un mode supplémentaire, ce mode supplémentaire, vous le laissez de côté, vous en faites un jeu. Et là, il commence à faire. Vous voyez, nous, on a fait des trucs. Et à côté de ça, on a fait revenir Ninja Gaiden. Et après, on a fait Dead or Alive Extreme Beach Volleyball.
Forcément le meilleur exemple à prendre.
Mais bon, comme il le dit, il n'a pas fait un mode, il a fait un truc. C'était du fan service. Et ça s'était vendu comme des petits pains le premier, je me souviens. Donc. Ouais. Certes, et à un moment il fait comment il s'appelait ce jeu avec Nina, c'était Death by Degree, je crois, non, c'est ça?
Oui, c'était à chier, oui.
Et il fait rien de ce truc là. Il fait ah, et quand vous avez suffisamment de temps, vous en faites un jeu. Et il fait ah, bah non, regardez Death by Degree, c'était à chier.
En même temps, il est vraiment pute parce que franchement, Extreme Beach Volleyball, hormis le mode photo, il n'y avait rien dans le jeu. C'était aussi un gros jeu à chier.
Ah, mais le truc, c'est que c'était clairement fait pour. Hein.
Il a chier. Oui, d'accord, mais c'est facile.
Avec ce jeu, il n'a jamais dit ça. Par contre, le mec à côté de ça, il a fait Ninja Gaiden.
Oui, enfin bref, Ninja Gaiden quoi. Bah, moi j'aime bien Ninja Gaiden, mais bon. Là,
on essaie en fonction, je sais pas comment ça va se faire quand on les aura. Ça devrait arriver courant janvier, ça risque d'être bourrin parce que j'avais pas eu le temps de la traduire, il faut peut-être que j'arrive à les ressortir ces articles-là. Justement, à Radassan, c'était plein, il y a quoi, il y a un mois et demi, que le grimade et les attaques directes d'Itagaki-san lui manquaient. Parce qu'en fait, ça le motivait pour en faire plus dans ces jeux.
Donc voilà. Bon, allez, on arrête là. Par contre, on va finir avec les tournois. Pardon, rapidement. Alors, on rappelle que ce week-end à Lyon, les 3 et 4, il y a l'European Street Battle, un tournoi 100% arcade dédié 100% à Street Fighter, avec des tournois sur Street Fighter 2X, Street Fighter 3.3 et Super Street Fighter 4, arcade édition. Ça se passe pendant un salon manga et animation, je crois, donc si vous voulez de l'information, allez sur esb2k.com. Ensuite, le même week-end, si vous êtes à Talence le 4 décembre, il y a un tournoi King of Fighter 13 et un tournoi Ultimate Marvel versus Capcom 3 à Talence. Donc allez sur le forum de Bagro.fr section événements pour voir le post et avoir les informations. Et enfin, dernière information... avant-dernière, par contre, pardon, j'en ai passé une ligne. Le 10 décembre prochain à Avignon, au magasin Comic Book, il y aura un tournoi Ultimate Marvel vs Capcom 3 sur Xbox. Et dernière petite info, je le rappelle, j'ai déjà fait deux appels pour ça. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que Jojo The Kill sur notre forum cherche toujours à organiser un tournoi du côté de... C'est où, Créteil, je crois ?
C'est pas Paname, un truc comme ça ?
Près de Paname, voilà. Ce sera le 7 décembre 2011 en soir. Ça s'appelle Pif and Chips, de la baston et du cholestérol. Autrement dit, vous allez boire de la bière, manger des gâteaux et jouer à Street Fighter 4. Donc, n'hésitez pas à passer sur le forum si vous avez rien à faire le 7 décembre au soir. Vous pourrez trouver l'adresse et toutes les infos dont vous avez besoin pour pouvoir y aller. Donc, c'est tout, on arrête là. Tosti qui était un peu trop long.
Une dernière chose, n'oubliez pas de regarder le NEC ce week-end.
Ah oui, le NorCal Install, c'est ça?
Non, c'est pas le NorCal Install, c'est le tournoi sur la côte est, l'énorme tournoi. C'est à pas louper, il y aura du Tekken Tag Tournament 2, il y aura du Soul Calibur, premier tournoi américain Soul Calibur 5. Et puis il y aura surtout du Mortal Kombat. Avec des technologies qu'on n'a pas encore vues, parce qu'il paraît-il que CD Junior va nous montrer à quel point Kitana est complètement pétée.
Oui, enfin, Kitana, elle est pétée depuis 6
mois.
Non,
mais là, il paraît qu'elle serait encore plus pétée, qu'elle ferait passer Cabal pour une fillette.
D'accord.
Voilà, donc on termine là-dessus. Surtout, ça sera le premier majeur sur Ultimate Marvel 3. Voilà.
Ce qui va être très intéressant. Bref, on vous laisse là. Merci de nous avoir suivis. On vous fait des bisous. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Salut les gens. Bye.